Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 10 janvier avec le journal de Sébastien Eugénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence avec des files d'attente.
Oui, qui sont devenus le lot quotidien de nombre de Français. Attendre parfois plusieurs heures pour être testés, si bien que certaines villes ont mis en place des centres de tests spécifiques anti-Covid en marge des labos et des pharmacies pour accueillir notamment les enfants. Reportage en début de journal. Ne pas laisser la crise sanitaire absorber tous les thèmes de campagne. Emmanuel Macron était en déplacement aujourd'hui à Nice pour parler sécurité avec plusieurs plans promesses et notamment celle de créer de nouvelles unités dans les quartiers et à la campagne. Décryptage à suivre. À suivre aussi Éric Zemmour qui présente son programme sur l'école, retour à la blouse et au certif. Le Mali quasiment sous embargo depuis hier soir pour sanctionner la junte au pouvoir et les abeilles qui profitent du redout dans les Landes pour déjà sortir, mais ce n'est pas le moment.
À 18h15, un jour dans le monde, aujourd'hui nous sommes avec le procureur français du parquet européen. 6 mois de fonctionnement pour ce parquet qui a mis 20 ans à voir le jour. Et quelles enquêtes sont déjà lancées? Comment travaillent ces magistrats européens pour s'assurer que l'argent du méga plan de relance européen n'ira pas dans des poches malveillantes? Nous poserons toutes ces questions à Frédéric Bab. 19h20, c'est le téléphone sonne avec Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement qui a fort à faire dans un contexte très particulier. Les contaminations sont telles avec Omicron qu'on en vient même à perturber la vaccination qui dans le même temps est poussé par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renverse nos perspectives? Comment sont en train de faire les Israéliens, par exemple, qui ne testent plus, eux, à tout va? Tout cela au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quasiment 10 millions de personnes testées chaque semaine en France.
Oui, comme si se faire tester devenait une nouvelle activité quotidienne avant d'aller au travail ou de déposer les enfants à l'école avec souvent plusieurs heures d'attente. Alors face au risque d'embolie dans les pharmacies, les autorités sanitaires incitent par exemple à créer un ordre de priorité en faveur des cas symptomatiques, des cas contacts à risque ou des patients avec prescription. Et puis l'autre solution, c'est de créer des centres qui ne font que des tests sur le modèle des centres de vaccination. Exemple avec ce centre éphémère à Rennes, ambiance tendue, reportage de Paul Sertillange de France Bleu Armorique.
Des centaines de parents et d'enfants, une queue interminable qui décourage Marie et sa fille Corrie.
Finalement, nous allons faire demi-tour parce que je ne veux pas lui imposer 2 heures de queue ou 3 heures pour se faire trifouiller le nez, quoi.
Mais comment est-ce que vous allez faire alors?
On va retourner à la maison, on va s'auto-confiner.
Si certains jettent l'éponge, la plupart restent comme Fred.
On n'a pas le choix, il faut le tester tout de suite.
Il arrive tout juste de l'école, il y a un cas positif dans la classe de son fils Yann.
Je viens de sortir à peine, il y a 30 minutes à peu près.
S'il est négatif, il va pouvoir retourner à l'école, je vais pouvoir retourner travailler, donc on est pas 2 heures près aujourd'hui.
2 heures d'attente.
Oui, avec les enfants c'est dur et quand on a mal aux jambes en plus, à la fin ça commence à tirer dur.
Pour à la fin un test antigénique et les couvillons dans le nez, c'est parfois très dur pour les enfants, surtout les plus jeunes comme la fille de Brahim, 3 ans. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps pendant le test.
Moi je prends ça personnellement que pour la torture, voilà. Je suis surpris que c'est pas du test salivaire et c'est très bien qu'il y a ce centre, mais c'est qu'il n'y a pas d'information en fait. On nous demande de faire des tests, on veut bien, mais plus ou moins on est livré à nous-mêmes en fait.
Les 9 salariés de la protection civile villes ne peuvent pas y faire grand-chose, ils sont submergés.
On ne pensait pas avoir autant de monde. On essaye d'avancer, mais c'est assez compliqué.
Frédéric Bridonneau gère l'équipe.
Et on est sur 500 tests maximum dans la journée. Donc il y a des gens qui vont être déçus au bout d'un moment, on va être obligé de leur demander de partir parce qu'on ne pourra pas réaliser les tests.
Et impossible de monter en régime, selon lui, à moins d'avoir des renforts.
Voilà, pour le Paul Sertillange de France Bleu Armorique. Au chapitre gestes barrières, le débat s'est beaucoup focalisé ces derniers jours sur le masque FFP2 en bec de canard, plus protecteur que le masque chirurgical. Faut-il le généraliser à d'autres secteurs que les soignants, le rendre obligatoire à l'extérieur comme en Autriche. Le gouvernement avait saisi le Haut Conseil de la Santé publique pour avis, un avis très attendu et toujours pas rendu public. Mais le ministre de la Santé a commencé à en dévoiler l'essentiel, le Haut Conseil qui n'est pas favorable à la généralisation du FFP2. Olivier Véran.
La recommandation du HCSP, du Haut Conseil pour la Santé publique et les masques FFP2, la recommandation m'a été remise ce week-end. Je pense que nous allons la publier ce soir ou demain. Et vous verrez que c'est une recommandation qui porte essentiellement sur les soignants et qui, si je résumais l'avis du HSP, n'irait pas vers une extension du port du FFP2, y compris d'ailleurs dans le milieu des soignants, au-delà des soignants qui sont aujourd'hui considérés comme à risque parce que exposés à des gouttelettes. C'est la recommandation du HSP. Le gouvernement aura évidemment à se prononcer. Nous allons en discuter de cela. Mais on rendra public l'avis et vous verrez qu'on est assez loin, d'après le HSP, d'étendre le FFP2 à d'autres catégories professionnelle.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, devant les sénateurs qui devait commencer aujourd'hui l'examen du texte sur le pass vaccinal. Le Covid à l'étranger, c'est d'abord la suite, mais toujours pas la fin du feuilleton Djokovic en Australie. Le numéro 1 mondial de tennis est sorti aujourd'hui de son hôtel suite à la décision de la justice. Le Serbe a repris l'entraînement. Pour autant, il n'est pas encore certain de pouvoir jouer l'Open d'Australie, les autorités se réservant le droit de pouvoir l'expulser. Parmi les pays qui durcissent leurs règles sanitaires, il y a aussi l'Autriche où le gouvernement veut mettre en place rapidement la vaccination obligatoire dès le mois prochain, mais la mesure est contestée par une partie de la population. État du rapport de force, le reportage à Vienne de notre correspondante Isorias.
Le projet de vaccination obligatoire est-il toujours pertinent? Certains se posent la question ces derniers jours en Autriche, notamment depuis l'apparition du variant Omicron. Mais pour la plupart des spécialistes, dont le virologue Norbert Novotny, elle ne doit pas être remise en cause, bien au contraire.
Face au variant Omicron, on sait que 3 doses de vaccin permettent d'éviter une hospitalisation dans 70 à 75% des cas. Or, en Autriche, il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées. Nous sommes autour de 70%. Ce projet de vaccination obligatoire est donc nécessaire à mes yeux.
Le gouvernement souhaite que la mesure entre en vigueur en février prochain, bien qu'elle reste contestée par des milliers d'Autrichiens, à l'instar de Wolfgang, non vacciné.
Je ne suis pas contre les vaccins en général, mais à mes yeux, l'État ne devrait pas imposer d'obligation. Ce n'est pas démocratique. Cette décision relève de chaque citoyen. Chacun devrait avoir quelques mois de réflexion avant de pouvoir dire s'il est prêt ou non à se faire vacciner.
Ce week-end encore, 40 000 opposants ont manifesté dans les rues de Vienne. Une fois la loi en vigueur, ceux qui refuseraient de se faire vacciner s'exposeraient à une amende pouvant aller jusqu'à 3 600 euros. Vianne Isorias, France Inter.
Et c'est l'autre sujet, grand sujet de société qui devrait animer la campagne présidentielle, la sécurité.
Oui, la sécurité au cœur d'une visite du chef de l'État aujourd'hui à Nice. Emmanuel Macron qui a confirmé le doublement du nombre de gendarmes et de policiers sur le terrain d'ici 2030. Un budget accru de 15 milliards d'euros sur 5 ans. La création d'un fichier des auteurs de violences intrafamiliales. Le tout suspendu à une loi qui sera examinée en Conseil des ministres en mars prochain, mais qui ne pourra pas être votée avant l'élection présidentielle. Autre annonce, la création d'une unité de police spécifique dans les quartiers et de brigades rurales de gendarmerie. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
D'abord les quartiers, le président français parle de force de réaction rapide pour éradiquer, dit-il, les réseaux délinquants.
Oui, ce seraient des unités mobiles, 11 au total, et selon un proche du chef de l'État, ce seraient bien des compagnies républicaines de sécurité, des CRS, mais qui seraient donc spécialisées sur les trafics de drogue et les violences urbaines, des unités capables de rester sur place bien plus longtemps que les compagnies classiques, 6 à 8 mois au total, selon Emmanuel Macron, des forces d'action rapides pour les quartiers qui ne seraient pas seulement composés de policiers suréquipés, mais il y aurait également des officiers de police judiciaire dédiés à cette mission pour accélérer les procédures ou encore des fonctionnaires des finances pour l'aspect économie souterraine et puis des éducateurs, des travailleurs sociaux. Le chef de l'État a estimé qu'il s'agissait à chaque fois d'éradiquer, je cite la formule, éradiquer les 10, 15 dealers que l'on connaît et démanteler durablement les points de deal.
Et à la campagne, Emmanuel, le chef de l'État promet là 200 brigades rurales.
Oui, là, c'est plutôt de répondre aux enjeux de la délinquance itinérante qui sévit parfois durant quelques jours, quelques semaines dans des zones rurales plus ou moins isolées en déployant des effectifs plus mobiles là où la délinquance peut sévir, à l'autre bout d'une circonscription. C'est permettre également à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir aller déposer une main courante dans une permanence de la gendarmerie installée dans une mairie, dans une poste ou un centre commercial, comme cela a déjà été expérimenté avec succès dans plusieurs départements.
Emmanuel Leclerc. Merci. Sa rivale Valérie Pécresse à Emmanuel Macron, elle creuse son sillon dans les pas de Nicolas Sarkozy. La candidate LR à la présidentielle était cet après-midi sur la dalle d'Argenteuil en région parisienne, là où en 2005 l'ancien ministre de l'Intérieur promettait, je cite, de débarrasser le quartier des bandes de racailles. Reportage à 19h dans le journal d'Hélène Philly. En politique toujours, c'est l'une des images du jour. Éric Zemmour et sa nouvelle recrue, l'ancien LR Guillaume Pelletier, désormais porte-parole du candidat. Il était pour la première fois à ses côtés aujourd'hui pour les vœux à la presse, lors desquels Éric Zemmour a présenté sa vision de l'école républicaine, une vision totalement tournée vers le passé, Élodie Forêt.
Oui, l'école d'Éric Zemmour, Sébastien, rappelle de vieux souvenirs, avec en primaire d'abord le retour du certificat à la fin du CM2, la suppression de l'apprentissage de l'anglais, on se concentre sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, et surtout, on porte la blouse.
La blouse, c'est le symbole, pour moi, de deux choses, l'égalité sociale il n'y a plus de différence entre les enfants. C'est aussi le symbole de ce que l'école doit être un sanctuaire par rapport à l'extérieur.
Sanctuariser, c'est l'une des obsessions du candidat, selon qui l'école a été ouverte aux quatre vents, notamment aux associations féministes, antiracistes, LGBT, écologistes. Éric Zemmour, président, elle n'aurait plus le droit de citer. Autre réforme essentielle pour le candidat, le collège unique, avec des classes par niveau.
C'est bien l'homogénéité qui, selon moi, permettra aux faibles de progresser et aux plus forts de ne plus s'ennuyer et d'être encore meilleur.
Plus généralement, le candidat prêche pour le retour de l'autorité plutôt que la bienveillance, l'exigence plutôt que l'inclusion. Côté financier, pas de moyens supplémentaires pour cette école, façon Zemmour, qui n'envisage pas d'augmentation des enseignants, mais un système de primes au mérite.
Élodie Forêt du service politique de France Inter. À l'étranger, le Mali presque coupé du monde depuis hier. Le Mali sanctionné très durement par les pays de la région, la CEDEAO, qui a pris hier une série de sanctions très fermes contre la junte au pouvoir à Bamako, qui refuse pour le moment de redonner rapidement le pouvoir aux civils. Fermeture des frontières, gel des aides et des avoirs du Mali à la Banque d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO qui entend tordre le bras aux militaires, mais sans garantie. Explication Claude Guibal.
Lors du premier putsch au Mali en 2020, la CEDEAO avait déjà imposé des sanctions, mais celles-ci sont autrement plus dures. C'est l'isolement du pays. Frontières fermées, échanges commerciaux suspendus, rappel des ambassadeurs, gel des avoirs maliens à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception des produits de première nécessité et des outils de lutte anti-Covid, tout est bloqué. Pour la CEDEAO, l'enjeu est essentiel. Le Mali s'était engagé devant elle à remettre le pouvoir aux civils et il en va désormais de la crédibilité de toute l'institution d'obliger Bamako à tenir cet engagement. En coupant les vivres, en asséchant les robinets financiers, la CEDEAO tente d'utiliser l'arme économique pour contraindre les militaires à céder face à la situation sociale déjà explosive. La crise des liquidités qui s'annonce, l'arrêt des exportations, tout cela risque de paralyser l'activité économique du pays. Le Mali pourrait être tenté de contourner l'embargo en passant des accords avec l'Algérie ou la Guinée, eux aussi en rupture avec la CEDEAO. Mais cela suffira-t-il et comment réagira la population déjà frappée par la situation délétère? Elle pourrait paradoxalement être tentée de resserrer les rangs derrière les militaires.
Et autre conséquence sur les vols vers Bamako, Air France a suspendu aujourd'hui ses vols en direction du pays. Un mot des pluies importantes dans le sud-ouest, mais pas de dégâts pour l'instant importants à déplorer jusqu'ici. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques toujours menacées par les crues. Toutefois, vigilance rouge maintenue par Météo France. On en reparlera après le journal. Vigilance orange en revanche pour les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.
Et puis 2021 était la cinquième année la plus chaude jamais enregistrée.
Les derniers chiffres du service européen Copernicus d'observation de la Terre. Une douceur qui se ressent encore en ce début d'année dans certains départements français au point que les abeilles se sont crues au printemps et ont commencé à sortir de leur ruche qui n'est pas du tout normal à cette période de l'année. Les apiculteurs sont donc inquiets pour le reste de la saison. Tristan Barraud de France Bleu Gascogne.
La semaine dernière, debout devant ses ruches, sous le soleil et la chaleur,
ça volait, ça déféquait.
Jérémy Saint-Paul, l'apiculteur à Soupreau, s'était déboussolé parce que d'habitude, à cette époque,
son repos, elles sont dedans, elles s'occupent à maintenir la chaleur quoi, dans l'intérieur de la ruche, elles se grappent.
Alors heureusement, les températures redescendent petit à petit. Dans sa salle à manger, Jérémy fait le point sur ses inquiétudes. Il voudrait que le mercure reste bas.
Des vrais hivers, quoi, déjà, des décembre, janvier, février, où c'est qu'il fasse froid, et après, petit à petit, que les températures remontent, quoi, et que tout suive, quoi. Là. Le risque, c'est qu'elles reprennent leur activité trop fortement, quoi, et elles vont se fatiguer, ça va leur demander beaucoup d'énergie, donc elles vont consommer plus de miel, quoi.
En fait, si les beaux jours reviennent trop tôt, comme il n'y a encore rien à butiner à cette période de l'année, il va devoir nourrir ses abeilles.
On a commencé à anticiper, quoi, à prévoir un peu de nourriture, des pâtes sucrées, quoi, pour leur compenser cette perte. Quoi.
Il ne veut surtout pas d'un scénario comme l'année dernière, 2021, année noire pour lui et tous les apiculteurs, à cause notamment des gelées.
Voilà, la sortie un peu trop précoce des abeilles. Rentrez chez vous maintenant. C'était un reportage de Tristan Barraud de France Bleu Gascogne.
Merci beaucoup Sébastien Logénie. Vous ne rentrez pas chez vous, vous allez revenir vous dans un instant, dans Un jour dans le monde. Et puis ce soir, nous sommes également avec le procureur français du parquet européen. Vous comprendrez à quoi ça sert ce parquet, comment il entend contrôler notamment les sommets somme colossale du plan de relance. Et puis le téléphone sonne en deuxième heure, je vous le remets dans l'oreille. Nous sommes avec Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement que vous connaissez bien. Il a fort à faire pour convaincre les récalcitrants, c'est une chose, mais fort à faire surtout si l'on songe que le nombre gigantesque de contaminés Omicron perturbe aussi la campagne de vaccination. Toutes vos questions, c'est au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant tout ça.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Encore deux départements en vigilance rouge pour les crues.
Oui, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes pour le Gave d'Oloron. Alors les niveaux de cours d'eau sont très élevés sur le sud-ouest. On a six autres départements en vigilance orange. Des débordements se produisent, donc soyez vraiment prudents. La vigilance orange avalanche persistera demain matin. La bonne nouvelle, c'est que les pluies faiblissent tout de même sur les Pyrénées. Elles se maintiendront cette nuit, parfois jusqu'en début de matinée sur la partie ouest. Mais ensuite, c'est un temps sec et ensoleillé qui prendra le relais.
Oui, une journée plus calme pour demain.
Oui, ce sera juste maussade sur le nord-ouest jusqu'à la côte d'Opale. Ailleurs, le soleil devra se débarrasser de la grisaille et des brouillards parfois givrants. Les températures, elles seront en baisse avec le retour des gelées le matin. Et puis l'après-midi, 3 à 7 degrés du nord de la Seine et du massif central aux régions de l'Est. Et ailleurs, il fera 7 à 15 degrés.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.